Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Radio Nzamba Gateka Kawe, nous sommes vendredi 18 février 2022. C'est l'heure du journal en français, donc voici d'abord les principaux titres. Des organisations de la société civile et certaines diasporas d'Europe organisent ce samedi à Bruxelles des manifestations pour dénoncer les crimes qui continuent à se commettre au Burundi. C'est au moment où le président Évariste Ndayishimiye prévoit de rencontrer le même jour la diaspora burundaise en Belgique à marge du 6e sommet Union africaine, Union européenne. Un Kenyan en provenance du Burundi a été arrêté en possession de 2 millions de dollars américains à l'aéroport international Jomo Kenyatta. La banque de crédit de Bujumbura, BCB en sigle, dit que cet argent lui appartient, mais suscite beaucoup d'interrogations. Le Burundi a célébré aujourd'hui la journée mondiale du cancer. C'est au moment où plus de 7000 cas sont enregistrés chaque année au pays. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement de ces titres.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le 6e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine prend fin ce vendredi 18 février à Bruxelles, en Belgique. Il est prévu que le président Évariste Ndayishimiye rencontre la diaspora burundaise et de Belgique ce samedi. Entre-temps, les membres des organisations de la société civile, en collaboration avec certains membres de la diaspora burundaise, appellent tous les Burundais vivant en Europe à participer aux manifestations organisées ce samedi pour dénoncer les crimes qui continuent à se commettre au Burundi. Vita Shimilman, président du Force, estime que les Nations Unies devraient plutôt garder un œil vigilant sur le Burundi. Écoutez-le.
Ces manifestations coïncident avec la participation d'Évariste Ndayishimiye au sommet de l'Union africaine et l'Union européenne. Et nous voulons envoyer un message à la communauté internationale, particulièrement aux citoyens européens, qui les contribuables qui financent les États et l'Union européenne, pour leur rappeler que le régime burundais continue à violer les droits de l'homme et que les violations massives qui continuent au Burundi sont de nature à justifier le maintien des sanctions et la mise à l'écart d'un gouvernement incapable de redresser la situation. Ceci parce que depuis 2020, lorsque Évariste Ndayishimiye a accédé au pouvoir, beaucoup pensaient qu'il y aurait un changement de situation. Or, les choses se sont empirées. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont perdu leur vie. Il y a des dizaines de personnes qui ont été portées disparues, sans compter des milliers de réfugiés qui croupissent toujours dans les camps de réfugiés. Et cette mobilisation est faite par plusieurs groupes, y compris des partis politiques, des organisations de la diaspora burundaise, ainsi que les organisations de la société civile. Donc, toute personne éprise de paix qui voudrait voir un Burundi changer, qui voudrait voir un Burundi respectueux des droits de l'homme et qui voudrait voir la violence s'arrêter au Burundi est interpellée à venir manifester son mécontentement, envoyer un message au Burundi et à la communauté internationale pour dire non à la violation continue des droits de l'homme.
Et toujours dans le domaine des droits de l'homme, les chiffres avancés par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale ce jeudi sur les violations des droits de l'homme en 2021 au Burundi sont minimes et ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Ce sont les propos de Jean-Claude Nibulumusi, chargé du volet juridique à l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Il demande à l'Assemblée nationale de faciliter la tâche aux commissions mises en place par l'État. Le point avec Vanessa Mouiteka.
Le rapport annuel présenté par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CINDH en sigle, à l'Assemblée nationale montre que les Burundis sont enlevés et certains parmi eux disparaissent. Malgré cela, Sitvini Mulaba indique que la personne humaine est respectée en général au Burundi.
Au cours de l'année couverte,
Par ce rapport, la CNIDH a enregistré 42 cas d'atteinte aux droits à la vie, dont 35 liés aux allégations de disparition forcée. Deuxièmement, en ce qui est de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le cadre de lutte contre la torture, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 7 cas d'allégations de torture en ce qui est du droit de ne pas être détenu arbitrairement. Au cours de la période de ce rapport, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 45 cas lors des visites des lieux de détention.
Jean-Claude Nibrumusi de la CAT Burundi félicite la commission pour ses pas franchis, mais précise que beaucoup de choses restent à corriger. Il s'insurge contre le président de l'Assemblée nationale qui veut fausser les données en intimidant le président de la commission.
Dans le rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, tel qu'il est présenté par cette commission devant l'Assemblée nationale, sont de loin inférieurs à la réalité compte tenu des données que nous recevons au quotidien. Nous sommes quand même contents du pas franchi par cette commission lorsqu'elle accepte que la disparition forcée est une réalité au Burundi. Il est encore tôt pour faire des réactions sur ce rapport, étant donné que nous ne l'avons pas encore eu en entièreté pour pouvoir faire des commentaires. Toutefois, nous restons fortement indignés par le comportement affiché par le président de l'Assemblée nationale, M. Gérard Ndabirabe, lorsqu'il s'est montré très furieux envers cette commission. Il n'était pas du tout content du rapport qui venait d'être publié.
Ce rapport de la CNDH a été jugé déséquilibré par l'Assemblée nationale qui a demandé à cette commission de le corriger pour qu'il soit adopté.
Merci Vanessa Mouiteka pour toutes ces précisions. Et nous parlons de cette situation qui devrait plutôt interpeller tout le corps de l'armée burundaise où plus de 20 militaires ont été exécutés par l'armée alors qu'ils étaient dans leur droit de réclamer l'ordre de mission d'entrer en territoire étranger. C'est l'avis du président du parti UPD Zigamiwanga, Chevino Mungwengezo, qui indique que ces militaires sont des victimes d'un mauvais système de défense nationale. Suivez-le.
Et de sources très bien informées nous apprennent que ces militaires-là, ils étaient prêts à partir en mission, et sauf qu'ils ont exigé un ordre de mission officiel qui vient de la hiérarchie. Dès lors que cet ordre de mission serait établi et mis à leur disposition, donc leur mission serait tout à fait régulière. Et au lieu de leur apporter une réponse appropriée, adéquate, on les a exécutés. Comme si ils n'avaient pas raison de demander ce document-là et qui pouvait effectivement leur permettre d'entrer officiellement dans un autre territoire. Voilà. Alors maintenant, ils sont exécutés comme si c'était pas des fils du pays. Voilà. Et cette situation, en principe, elle devrait interpeller tous les corps de défense. Il devrait même les fédérer pour que finalement aucun militaire ne soit tué parce qu'il a demandé un visa d'entrée sur un territoire étranger pour des missions obscures. Il a besoin quand même d'un ordre de mission. Encore une fois, une situation qui vient endeuiller le Burundais, qui vient endeuiller des familles. Il y a de quoi remettre en cause tout ce qu'ils avancent comme quoi le Burundi était havre de paix. Au moins, tout ce temps qu'ils sont en train de nier le fait d'être présents sur le territoire congolais, au moins pour une bonne fois, ils sont mis à découvert. Au moins, l'opinion publique nationale et internationale se rendra compte de la réalité selon laquelle le Burundi envahit un autre territoire qui est le Congo. Ça, ils l'ont toujours nié, mais aujourd'hui, c'est une évidence.
Il faut rappeler que l'armée burundaise n'a jamais reconnu sa présence sur le sol congolais.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe.
Et au chapitre de l'économie, un homme originaire du Kenya en provenance du Burundi a été arrêté ce jeudi à l'aéroport international Jomo Kenyatta en possession d'une valise contenant 2 millions de dollars américains. Dans son communiqué, la banque de crédit de Bujumbura BCB en sigle a fait savoir que ce colis lui appartient et parle d'un travail de routine visant à échanger des billets en devises avec une banque partenaire dans notre pays. Le point avec Josine Kazé.
Les douaniers kényans ont intercepté le voyageur jeudi et saisi son colis. Il a été arrêté parce qu'il était soupçonné de faire partie d'un système de blanchiment d'argent après avoir omis de déclarer l'argent comme l'exige la loi lorsque le montant dépasse 3 000 $ ou l'équivalent. Selon le communiqué sorti par Liliane Nyawanda, le commissaire des douanes et du contrôle des frontières, l'argent a été retenu et l'affaire fait l'objet d'une enquête. Selon toujours les autorités douanières et fiscales du Kenya, le passager est arrivé à l'aéroport Jomo Kenyatta en provenance de Bujumbura. Après son arrestation, il a déclaré que l'argent provenait de la banque de crédit de Bujumbura BCB et qu'il était destiné à la société Brooks Global Services au Kenya. Après le dédouanement par l'unité des douanes à l'aéroport, le voyageur a ensuite présenté l'argent avec différents documents d'exportation pour l'expédition à une autre société, Global Services, basée au Royaume-Uni. Les documents produits à l'appui de la demande d'exportation étaient différents de ceux produits à l'entrée dans le pays. De son côté, à la suite de cet incident, la BCB a rendu public un communiqué jeudi soir dans lequel elle indique que ce colis saisi lui appartient et qu'il s'agit d'une activité bancaire de routine. La BCB a expliqué qu'il s'agit de l'exportation des billets en devises en vue d'alimenter ses comptes pour pouvoir effectuer les différents ordres de paiement des importateurs et divers clients. La BCB a clôturé son communiqué en disant que cette opération est régulière, qu'elle est autorisée par la Banque centrale et assurée par une société de renom international.
Et une somme aussi importante saisie dans les mains d'un passager peut être un cas de blanchiment d'argent. C'est l'avis de Faustin Dikoumana, président de l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces mêmes sigles. Selon lui, cet argent suscite des interrogations, surtout qu'un tel montant est sous la responsabilité d'une personne isolée. Il demande que des enquêtes soient menées, sinon ça décrédibilise les banques burundaises. Je vous prie d'écouter Faustin Dikoumana.
Et normalement, qu'une banque locale qui s'y passe puisse détenir des comptes par les banques extérieures, c'est tout à fait normal. Qu'il y a un mouvement de fonds, quand une banque fait un retrait pour alimenter sa caisse de trésorerie, ça peut être considéré comme normal. Mais la façon dans laquelle son colis était transporté, c'est des interrogations à juste titre, parce que même si de tels cas arrivent, cet argent voyage à travers la couverture d'une maison spécialisée ou d'un âge de voyage qui peut assumer et le transport de son colis, sinon de l'argent d'un tel montant qui peut voyager sous la responsabilité d'un individu isolé, doté, qui ne peut pas assumer sa responsabilité, qui ne peut pas justifier directement l'origine et de son faux, c'est des doutes. Et encore une fois, on était habitué que surtout ce sont des banques ici locales au Burundi et qui font des opérations à l'étranger à travers leur clientèle, qui reçoivent des paiements à partir des exportations effectuées. Des fois, on était habitué que c'est le mouvement inverse, que tout l'argent qui provenait de l'extérieur, des banques extérieures, pouvaient être retirées des banques extérieures pour venir alimenter les caisses ici sur place. Mais sinon, et quand elles somme ne peut pas être justifiée immédiatement sur les d'un individu à tel montant qui quitte le territoire national, là, vraiment, ça c'est des doutes. Il faut qu'il y ait vraiment une investigation par rapport à cela. Et c'est surprenant parce que aussi, la BCB était une banque et sérieux, expérimenté en matière, et qui dirigeait par des professionnels, on ne comprend pas comment une telle aventure peut arriver. Et j'imagine qu'il faut qu'il y ait une investigation, sinon, transporter de tel genre de façon de l'écran comme ça, et j'imagine que ça peut aussi ternir l'image de l'institution et du système financier burundais, et tout en espérant les responsabilités de la BRB d'essayer de voir comment réguler ces banques burundaises, parce qu'on voit que des banques burundaises commencent à faire des erreurs atypiques au niveau de leur profession. J'imagine que c'est une affaire à suivre. Encore plus, on peut soupçonner une certaine collision entre certains hommes d'affaires, d'autres délinquants financiers, de blanchir de l'argent, de commencer à collaborer avec des institutions aussi fortes. Et ça peut citer des doutes comme ça, mais j'imagine que cette situation pourra être clarifiée pour que les gens ne continuent pas à soupçonner beaucoup plus.
Et puis, un bateau appartenant à un Burundais du nom de Rafik Abraham Diego a fait naufrage ce jeudi dans les eaux du lac Tanganyika, dans la province de Kigoma, en Tanzanie. Le bateau était chargé de matériel de fabrication du ciment de l'entreprise Buseko. Toutes les personnes à bord ont été sauvées de justesse grâce à l'intervention rapide de la marine tanzanienne. Plus de détails avec Joséphine Jones-Gonziman.
Le bateau qui a coulé dans les eaux du lac Tanganyika est le MV Diamwezi appartenant à un Burundais nommé Rafik Abraham Diego. Motorized Vessel MV Diamwezi, qui signifie un bateau motorisé, venait de passer plus de 12 ans à naviguer dans les eaux du lac Tanganyika. Toutes les 11 personnes, membres de l'équipage du bateau, ont été sauvées grâce à l'intervention rapide de la marine tanzanienne, comme le confirment les sources de la radio Inzamba Gatika Kawe au sein de la marine burundaise. Le bateau naufragé provenait du port d'Mpulungu en Zambie, chargé du matériel de la cimenterie Buseko. Ces experts du transport naval portent déjà leur regard sur l'inspection navale au Burundi dont ils doutent la rigueur. L'un de ces experts qui s'est entretenu dans l'anonymat avec la radio Inzamba fait savoir qu'il est difficile de comprendre comment MV Diamwezi est le deuxième bateau victime de naufrage après le MV Mbaza, juste après une dizaine d'années de flotte sur les eaux du lac Tanganyika. Son étonnement est d'autant plus grand que, selon lui, il y a des bateaux qui viennent de passer plus de 60 ans dans le transport naval sur les eaux du lac Tanganyika et qui n'ont jamais eu le moindre problème. Il explique que le lac Tanganyika est considéré comme une mer intérieure ayant souvent des vagues violentes selon le rythme de la météorologie. L'expert recommande à l'inspection navale du Burundi de toujours vérifier la construction navale et le chargement pour prévenir ou éviter ce genre d'accident. Le propriétaire a déclaré à nos confrères de la radio-télévision Isanganilo que le naufrage a été causé par des vagues violentes, selon les informations qu'il a reçues de son capitaine et du mécanicien.
Et dans le domaine de la santé, plus de 7000 cas de cancer sont enregistrés chaque année au Burundi. Propos du docteur Jean de Dieu Havyarimana, directeur du projet gouvernemental de lutte contre les maladies incurables et non contagieuses. C'était à l'occasion de la célébration au Burundi de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Une journée célébrée généralement le 4 février de chaque année. Selon le docteur Jean de Dieu Havyarimana, au Burundi, il y a beaucoup de cas de cancer qui malheureusement sont tardivement diagnostiqués et dont le traitement n'existait pas au pays. Suivez-le.
Nous avons des problèmes liés à l'approvisionnement ou la disponibilité des médicaments. Ça, c'est une réalité. Mais nous sommes en train de travailler parce que ici où je vous parle, il n'y a pas plus de 2 mois qu'on a déjà terminé un document qui va mettre en place un centre national de référence en cancérologie. Donc, qui va aider dans la prise en charge holistique de tous ces malades de cancer. Vous avez vu que le cancer est un problème de santé publique. Avoir des données parcellaires que nous disposons, où on vous dit qu'à chaque année, il y a plus de 7000 nouveaux cas qui sont recensés, toutes formes confondues de cancer. Donc, je crois qu'il serait judicieux d'avoir des données fiables avec une enquête nationale et je crois qu'il y a des enquêtes qui sont préconisées au niveau du plan stratégique et même au niveau du document que je vous ai parlé. Comme ça, on pourra avoir des chiffres corrects qui nous donnent, même qui vont nous aider à quantifier ce que nous venons de parler comme défi à médicaments. Le problème est déjà là, il est identifié. Nous sommes à l'œuvre avec la CAMEBU, avec les acteurs, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les districts ou les provinces sanitaires. Il faut une gymnastique de quantification des besoins d'abord à ces médicaments. Parce que la CAMEBU ne peut pas importer des médicaments qui vont périmer. Il faut que nous ayons des statistiques ou bien des chiffres qui nous montrent réellement quelle quantité il faut importer.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de continuer à nous suivre. Merci également à la rédaction de la radio Inzamba. Au micro, vous étiez avec Alissa Kimana. Je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous. Au revoir.